Frères et sœurs, une fois encore dans un texte très compact, l'évangéliste Marc nous délivre un message essentiel dans le petit passage que nous venons d'entendre. Reprenons le texte en détail. Ce jour-là, au bord du lac, Jésus a fait son travail d'évangélisation. Il a accompli sa mission en annonçant la bonne nouvelle par de nombreuses paraboles, comme celle du semeur ou encore celle de la lampe qui ne doit pas être cachée. Et voilà que, sa journée terminée, il demande à partir. Il demande à ses disciples de passer sur l'autre rive du lac. Passer sur l'autre rive, c'est changer de perspective. C'est aller voir les choses sous un autre angle, dans un autre contexte. Mais il nous faut creuser davantage cette parole en la resituant dans son contexte pour bien comprendre le message que l'évangéliste Marc nous transmet ici de la part du Christ. Le lac dont il est question ici, c'est le lac de Génézareth, qu'on nomme également lac de Tibériade. Mais saint Marc l'appelle sous un autre nom, la mer de Galilée. On peut comprendre ce terme de mer pour des raisons géographiques, car ce lac est assez vaste, environ 13 km de large sur une vingtaine de long. Mais la vraie raison de cette appellation est probablement ailleurs. En effet, dans la symbolique théologique des Hébreux, la mer a une signification particulière. C'est au fond de la mer que se situe le Shéol et le siège du mal. C'est là que se retrouvent les esprits mauvais. Le choix des mots par saint Marc a donc une portée théologique. Lorsque Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre rive, il leur demande de traverser la mer en les engageant en quelque sorte à affronter avec lui les esprits mauvais. Cet affrontement va constituer une épreuve, et c'est en effet une épreuve concrète qui les attend dans la suite du texte. Cependant, nous n'avons pas encore terminé avec cette parole de Jésus « Passons sur l'autre rive ». En effet, si nous regardons la carte d'Israël au temps du Christ, nous constatons que le lac de Tibériade forme une frontière entre la Galilée à l'ouest, qui est territoire juif, et puis la Décapole à l'est, territoire non juif. C'est d'ailleurs encore vrai aujourd'hui, puisque la rive est du lac se trouve en Syrie. À l'époque, Jésus et ses disciples vont se retrouver de l'autre côté du lac, chez les Gadaréniens, un peuple païen. Connaissant ce détail, nous comprenons alors qu'en invitant ses disciples à passer sur l'autre rive, Jésus leur délivre un avertissement très clair. « J'ai annoncé la bonne nouvelle aux Juifs, au peuple élu de Dieu, mais cette annonce ne s'arrête pas là. » Elle s'adresse aussi aux païens. Le message de Dieu est destiné à tous les hommes, et pas seulement aux Hébreux et à leurs descendants. Pour les Juifs les plus scrupuleux, les païens, rappelons-nous, sont impurs. Et il ne faut surtout pas se mélanger avec eux si l'on veut rester pur. Et Jésus va passer beaucoup de temps à leur expliquer que ce faisant, ils sont en train de se replier sur eux-mêmes et de se fermer à l'autre. C'est tout le contraire du message d'amour délivré par Dieu. Cet amour est universel et non pas dirigé vers ceux qui sont purs à nos yeux. En invitant ses disciples à passer sur l'autre rive de la mer de Galilée, Jésus leur enjoint très clairement de passer par-dessus les forces du mal et de laisser tomber les notions de pur et d'impur. Et Jésus va marteler cela tout au long de ses 3 années de ministère, sans être d'ailleurs beaucoup entendu. C'est un message qui est en effet très déconcertant pour les Juifs. Les disciples eux-mêmes ne comprennent pas le sens des paroles de Jésus. Ils attendent toujours en lui le libérateur d'Israël qui va les délivrer du joug de l'occupant romain. Le message est tellement déconcertant que les autorités religieuses vont prendre Jésus en haine. Ne sont-ils pas, eux, les représentants du peuple élu de Dieu ? Qui donc est-il, celui-là, pour oser déclarer, pour oser dire ce qu'il dit et faire ce qu'il fait ? Les disciples, eux-mêmes, eux qui côtoient Jésus toute la journée, se posent la même question. Vous avez entendu à la fin du texte. Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? C'est seulement après la résurrection qu'ils vont commencer à formuler une réponse. Jésus est bien Dieu et il nous demande d'aimer les autres, même les païens, même nos ennemis. Pour la plupart d'entre nous, ce même long cheminement est à parcourir pour pouvoir vraiment rencontrer Jésus. Notons au passage que dans son évangile, Marc va raconter trois traversées du lac de Tibériade et que toutes les trois sont assorties d'épreuves. Dans ce passage, l'épreuve, elle est concrétisée par une tempête qui survient brusquement. Nous pouvons penser que cet épisode n'a pas été inventé par Marc pour ajouter un côté épique à sa narration. En effet, aujourd'hui encore, ce lac, qui est situé à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, est soumis à de violents tourbillons de vent provoqués par les fortes différences de température. Il est régulièrement sujet à des tempêtes qui surviennent très brusquement. Voilà donc qu'une de ces tempêtes se lève. Jésus, il est sur le siège à l'arrière qui était normalement réservé au timonier et qui comportait un coussin. Jésus s'y est endormi, probablement épuisé par ses longues journées d'enseignement. Les disciples sont terrifiés par les vagues. Ils craignent que la barque ne sombre avec ses occupants. Et ils interpellent Jésus en des termes d'ailleurs très proches de ceux du psaume 43 qui a été écrit 1000 ans plus tôt. « Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour toujours !» Après avoir suivi Jésus et écouté ses enseignements, ses disciples ne croient pas encore suffisamment en lui. Mais entre nous, mettons-nous à leur place. Si moi je me trouvais comme eux dans une frêle barque au milieu de la tempête, est-ce que je me sentirais totalement tranquille ? La réponse n'est pas si évidente que cela. Alors quelle leçon pouvons-nous en tirer aujourd'hui à Ville-d'Avray ? D'abord, nous pouvons penser aux tempêtes que nous avons pu traverser dans notre vie ou celles que nous traversons actuellement. Les tempêtes externes, des événements majeurs de la vie, deuil d'un proche, accident, maladie, séparation, divorce, perte d'emploi, que sais-je. Ou bien les tempêtes internes, intérieures, nos émotions, nos pensées, nos réactions face aux événements. Peut-être le passage par des crises, la crise d'adolescence, la crise du milieu de la vie, un épisode dépressif, etc. Mais l'Évangile me dit que les tempêtes de ma vie ne sont pas forcément des soucis pour Jésus. Il est présent avec moi pendant ces tempêtes, mais il n'a pas peur. Au contraire, il demeure parfaitement calme, parfaitement serein. Au fond, peut-être que Jésus me fait plus confiance à moi que moi-même. Dans certaines crises que je traverse, Jésus peut me paraître complètement endormi, sans réagir. Mais pourquoi ne se manifeste-t-il donc pas ? Parfois, j'en viens à penser qu'il est absent, il n'est pas là. Les disciples, eux, le voyaient dormir au fond de la barque. Mais moi, je n'ai pas cette possibilité de voir Jésus concrètement. Pourtant, ce texte me dit « Je suis en sécurité entre les mains de Dieu. que Jésus dorme ou qu'il soit éveillé. Même quand il me donne l'impression de dormir, je suis en sécurité avec lui. Jésus, en tant qu'homme, a aussi vécu des tempêtes dans sa vie. Il sait ce que ça représente. Il me comprend. Et Jésus, en tant que Dieu, possède tout le pouvoir sur ces tempêtes et il peut m'en sauver. Cependant, il me pousse en avant. Il me rappelle sans cesse, allons sur l'autre rive. Oui, frères et sœurs, osons aller sur l'autre rive. Amen.